Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
De tomber, tout ça. Et j'ai pour la première fois remarqué qu'il y avait un parallèle assez étonnant entre les 6-7 paraboles du royaume, puis les sept lettres aux sept églises. Donc, pendant qu'on va enseigner le dimanche sur les sept lettres aux sept églises, on va enseigner durant ce temps-là, aux deux semaines, sur les paraboles du royaume. Fait que, c'est là que j'ai remarqué pour la première fois que la seule parabole qui dit à celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'était dans une des paraboles du royaume la plus importante, la parabole des quatre terrains. C'est une parole qui revient à chacune des lettres de l'Église, qui dit à celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc, que nos oreilles puissent être ouvertes pour ça. Je prie pour les enfants et l'éducation chrétienne. Seigneur, je te remercie pour cette occasion que les enfants y ont, Seigneur, de recevoir cet enseignement-là que des vieillards n'ont même pas pu avoir accès encore, qui n'ont pas compris encore. Et eux sont là à matin. Ils suivent papa, ils suivent maman. Puis, c'est leur église aussi, Seigneur. Parce que tu es leur Seigneur. Fais-toi connaître à eux, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, ouvre leur cœur et leur intelligence pour qu'ils comprennent qui tu es, ce que tu es venu faire pour eux et le royaume que tu prépares à venir pour eux aussi, Seigneur. Parce que le royaume, il est comme ceux qui leur ressemblent, Seigneur. Ils sont simples, les enfants, Seigneur Dieu, sont toujours prêts à recevoir un cadeau, même quand ils ne méritent pas. Et donc, c'est ça la grâce, hein? Fait que, bénis-les, puis bénis aussi Sarah, puis les autres professeurs, éducateurs ce matin. Au nom de Jésus, amen. Les enfants peuvent aller à l'éducation chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'amener une bouteille d'eau? J'ai oublié d'aller me chercher ça au frigidaire, s'il vous plaît. Vous pouvez tourner dans Apocalypse chapitre 1. Donc, message sur... c'est pas une série sur l'Apocalypse, mais c'est une série sur les trois premiers chapitres de l'Apocalypse. C'est le titre de la série. Ça s'appelle « À celui qui vaincra ». Alors, pourquoi est-ce que j'enseigne là-dessus en ces moments ici? Eh bien, récemment, j'ai fait une série qui s'appelait « Aimer le monde au travers Christ », puis j'ai pris un verset de Hébreux qui disait que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Ça, c'est tous ceux qui sont morts dans Hébreux 11, là, les héros de la foi, Abraham, Jacob, tous les autres. Là. Puis là, on court une course, puis là, c'est à nous maintenant de courir cette course-là. Puis le texte disait qu'il fallait courir la course sans se laisser envelopper facilement par des fardeaux ou le péché qui nous enveloppe si facilement. Fait que j'ai pensé à rester dans cette idée-là d'une course. J'aimerais ça vous motiver. Il n'y a pas de sérénap là-dedans. Hein? J'aimerais ça qu'à la fin de mon message puis à la fin de la série, on soit motivé à finir la course comme des vainqueurs. Puis, qu'on puisse avoir la tête aussi relevée. Parce que quand que tu cours une course, puis que tu arrives, puis que c'est à la fin, là, c'est comme un déménagement. T'sais. Quand tu vois qu'il te reste juste quelques boîtes, là, puis là, tu as fourni tout ce que tu avais, tu n'es plus capable, mais tu sais qu'il te reste juste comme une pièce, puis c'est fini après ça, on n'en parle plus. Ben, tu es encouragé, puis tu donnes tout ce que tu as pour le dernier sprint. Hein? Fait que c'est un petit peu la même affaire. Nous autres, on est des vainqueurs déjà. Lorsque vous lisez les sept lettres aux églises d'Apocalypse, vous apercevez que celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle a été placé déjà à la place des vainqueurs. Par contre, individuellement, est-ce qu'on finit avec une attitude de vainqueur? Dans ces lettres-là, on voit des gens qui ont perdu leur premier amour, des gens qui ont mélangé le compromis avec la foi, des gens qui ont remplacé la tradition par la parole par la tradition. On voit des gens qui dorment spirituellement, puis on voit des gens qui sont inconscients de leur pauvreté spirituelle et qui sont endurcis de cœur. Est-ce que ça peut arriver avec un croyant? Oui, ça peut arriver à un croyant, puisque mon désir, c'est qu'on puisse aussi finir comme des vainqueurs. la série va se diviser en trois messages. Aujourd'hui, c'est « Écris ce que tu as vu ». Donc, ça va être moi qui vais l'apporter. Les choses qui sont, ça va être Benoît et moi qui va l'amener. Puis les choses qui sont, partie 2, ça va être Benoît et moi qui va l'amener. Donc, on étudie ensemble les samedis matins. Puis on partage nos notes ensemble. Là, c'est vraiment le fun. Fait que ça va être le 30 août, puis le 6 septembre. Si rien ne change, ça va être comme ça. En 2011, j'ai fait une série de 20 messages sur l'Apocalypse. Mais là, c'est une série que j'avais juste pris juste deux messages pour faire les trois premiers chapitres. Là, on va en prendre trois, puis on va prendre un emphase qui est beaucoup plus le message qui est adressé aux églises, un peu plus en profondeur, au moins un message de plus. Pourquoi est-ce qu'on enseigne là-dessus? Bien, c'est parce que l'Apocalypse, c'est un livre d'actualité. Il est encore très actuel pour nous, en fait. L'Apocalypse, c'est un des... Tu sais, souvent, tu vas lire lettre aux Éphésiens, aux Colossiens, à ceux qui sont dans ta maison, tout ça. Mais Apocalypse, c'est le livre aux églises. C'est pas une lettre qui est écrite seulement à cette église en Asie, puis on va voir pourquoi. C'est aussi la seule lettre qui dit être une lettre. C'est pas qu'elle est directe, mais dès les premiers versets, tu t'aperçois que c'est une révélation de Jésus-Christ à Jean. Okay? Bien sûr, il y a le Père, le Saint-Esprit et deux anges dans le cheminement, là, mais. C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on pense que le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui a été écrit à seulement sept églises en Asie? Bien, c'est parce qu'en Asie, il y avait des églises comme à Myè, qui n'était pas loin, à Troas, qui est cité deux fois dans le Nouveau Testament, à Colosse, qui a une épître qui porte ce nom-là, à Hiérapolis, en Magnésie. C'était toutes des églises qui existaient du temps où Jean a écrit. Et pourtant, rien ne leur est écrit, ni en reproche, ni en récompense, ni en promesse, ni en... Donc, on pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Aussi, la stratégie de livraison des lettres est intéressante, parce que lorsque vous regardez sur la map, il y a littéralement un chemin qui vous fait passer d'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Donc, si vous suivez la route des églises, celle qui se trouve sur la route... il y avait comme ici, il y avait à Laodicée, il n'y a pas loin, il y a Colosse, Hiérapolis et tout ça, mais celles qui sont sur la route de l'Empire romain, c'était ces églises-là. Et l'ordre qu'elles ont, c'est dans l'ordre qu'elles sont écrites aussi. Alors, c'était une lettre qui était probablement destinée, bien, on va le voir plus tard, là, mais qui était destinée à être lue et après ça, distribuée comme on appelle une lettre circulaire. Une autre des raisons pourquoi on pense que c'est pas juste ces sept églises-là qui auraient été récipiendaires de cette lettre-là, c'est qu'on parle de Jézabel qui est dans l'église. Elle appartient à des siècles passés, Jézabel. Puis il dit à une des églises, tu laisses Jézabel enseigner dans ton église. Puis on comprend, on connaît Jézabel, on s'aperçoit que c'est vraiment de lui, de elle que Jean parle. Il parle de Balaam aussi, hein, qui a sa doctrine dans les églises et tout ça. C'est des gens qui appartiennent à des siècles passés. Donc, ce n'est pas nécessairement à cette église-là. Aussi, il va dire que l'Apocalypse, dès les premières lignes, quand vous lisez l'Apocalypse 1, c'est une lettre qui a été donnée à ses serviteurs. Ses serviteurs. Donc, celui qui est serviteur de Christ, eh bien, c'est à lui. Puis plus tard, tu vois, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui entendent. Ça veut dire ça, qui a des oreilles ici? Je l'ai faite en 2011 aussi. Là, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'oreilles ici. je vais réécouter mon message en 2011. J'essaie de raffiner ma joke. Là. Fait que à ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui entendent ce que l'Esprit dit, puis c'est intéressant, après chaque église, c'est écrit qu'ils entendent ce que l'Esprit dit, pas à l'église de Smyrne, pas à l'église de Philadelphie, pas à l'église d'Éphèse. qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, et donc il parle à toutes les églises. Et à cause de ça, bien, ça fait du sens que le message il est prophétique pour nous autres aujourd'hui, puis que le message il est pour l'église de Davelouisville aussi. Aussi, on ne le voit pas vraiment dans le texte français, mais à chaque lettre, c'est écrit « Voici ce que dit celui ». Puis là, ça parle de Jésus. Ça donne une description de la personne de Jésus. Mais dans l'original, c'est « Ainsi parle celui ». Puis quand tu vois ça dans l'Écriture, « Ainsi parle », c'est une déclaration prophétique qui annonce quelque chose qui est caché ou qui est à venir. Donc, c'est vraiment des prophéties qui c'est pas juste ce qui se passait à Laodicée ou à Philadelphie dans ce temps-là, mais c'est des choses qui vont se passer dans le reste du temps. Aussi, il y a des choses qui sont promises à une église qui va souffrir pendant 10 jours, puis après ça, il y en a une qui va, c'est ça, qui va souffrir. Il y en a une qui dit, et il dit à une, il dit « Retiens ce que tu as jusqu'à temps que je revienne ». Jésus n'est pas encore revenu pour cette église-là. Fait qu'elles sont toutes mortes. Puis même, il y a des places qu'il n'y a même plus d'église. Là. Il y a des places où il y a des choses qui ont été dites, il n'y a même plus d'église. Donc, retiens jusqu'à temps que je revienne. Pauvres autres, Jésus n'est pas revenu. Ou il y en a une, il dit, je pense que c'est à Philadelphie, il dit, je te garderai de l'heure de la tentation qui va recouvrir le monde en entier, qui est la grande tribulation. Elle n'est pas encore arrivée. À cause de ça, on pense qu'il y a, je pense en tout cas, que l'Apocalypse et surtout les lettres aux 7 églises s'adressent aux églises de tous les temps. On remarque aussi dans l'histoire, nous on est rendu 2000 ans plus tard, on remarque que chacune des églises a un trait très particulier à une époque de l'Église. L'Église apostolique, de jusqu'à 100, après ça de 100 à 313, puis après ça de 313 jusqu'à 1500, je pense, après ça 1500 jusqu'à 1900, puis de 1900 à aujourd'hui. En tout cas, on va les regarder, les 7 églises, avec cette approche-là. Pourquoi prêcher sur l'Apocalypse? Bien, parce que on est à minuit moins un. Dans toutes les églises, si chacune des églises représente l'histoire de l'Église, et Jean, Dieu va lui dire dans les premiers versets, là, ça va être écrit, les signes qu'il a montrés à Jean, en fait, c'est vous avez, il a fait connaître à Jean, mais le mot c'est signe, et c'est un mot qui est utilisé seulement par l'évangéliste Jean. Dans tous ses miracles dans l'évangile de Jean, il dit qu'il a montré des signes. C'était des signes pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu. Là, ce sont des signes, pas pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu, ce sont des signes pour prouver que la fin va éventuellement arriver, puis que Jésus va venir juger la terre. Donc, on est la dernière des églises sur le trajet, dans l'ordre de l'histoire. Donc, on est proche de la fin. Jean, il dit qu'il va décrire ce qu'il a vu, les choses qui sont, là c'est l'histoire de l'Église, puis les choses qui vont venir après. Ça, c'est à partir du chapitre 14 jusqu'au verset 20, chapitre 22. Mais dans les chapitres 4 à 19, tu vois, chapitre 1, chapitre 2, l'Église, chapitre 3, l'Église, chapitre 4, plus d'église. 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 19. Pas d'église sur la terre. Mais ça parle de l'église dans les cieux, par exemple. Ça parle des vieillards qui sont là dans les cieux, des gens qui remettent leur couronne, qui ont passé par le tribunal de Christ. Il y a des choses qui se passent, mais c'est dur de mettre 2 événements qui se passent en même temps sur la terre et dans les cieux dans le même texte. Fait que ce que le Jean va faire, c'est qu'il va les mettre un en arrière de l'autre comme ça. Fait qu'on va arriver avec des descriptions de ce qui se passe dans les cieux et des choses qui se passent sur la terre. Mais ce qui se passe sur la terre, c'est vraiment pas chic. Puis là, au chapitre 20, tranquillement, on voit le millénium apparaître au 21, puis l'ordre éternel au chapitre 22. Donc, c'est des signes pour nous montrer les temps de la fin. Jésus dit qu'il ne connaît pas l'heure de la fin, mais il dit qu'on va reconnaître l'arbre à ses fruits. Et l'Apocalypse est un livre de signes pour nous montrer des indications du temps. On va regarder une petite vidéo ici qui est intéressante. Aussi la technologie. Je crois que la technologie où elle est rendue aujourd'hui, c'est rendu possible de faire un contrôle de masse.
Un seul téléphone ne sera vendu en Chine sans que son utilisateur associe son visage à son numéro de téléphone. C'est obligatoire depuis le 1er décembre. Une façon de sécuriser un peu plus le cyberespace, selon les autorités, mais aussi de resserrer un peu plus le contrôle de la population. En 2016, la série Black Mirror imaginait un monde où chaque citoyen serait noté, avec des conséquences directes dans la vie quotidienne. Cette réalité, c'est déjà le quotidien de millions de Chinois. Dans une quarantaine de villes, l'État expérimente un système de crédit social, extrait de l'émission Envoyé spécial.
À 18 ans, Wang Lu s'est vu attribuer une note, 1000 points, qui évolue en fonction de ses actions. Elle jette un papier par terre. C'est une incivilité qui lui coûte 50 points.
Et 100 points si elle traverse au feu rouge, par exemple. C'est finalement l'accès à un crédit ou à certains emplois qui peut être interdit. Si l'État chinois peut classer ses citoyens en différentes catégories, c'est grâce à la reconnaissance faciale qui se généralise et au croisement de données. Cette intelligence artificielle apporte beaucoup pour la sécurité, les villes, le gouvernement, mais ça nous apporte aussi une nouvelle expérience. Les géants comme Alibaba investissent massivement dans le secteur, par exemple avec le paiement par reconnaissance faciale. Ça aide aussi à protéger la vie privée. Quand vous entrez un mot de passe, quelqu'un peut le voir à côté de vous. Alors que la reconnaissance faciale, c'est différent. Dans la Silicon Valley aussi, cette technologie est tendance. Et une cote qui donne accès à un crédit, chez nous aussi, on y a recours. Mais en Chine, où l'on compte la moitié des caméras du monde entier, 200 millions, le fichage systématique soulève beaucoup d'inquiétudes. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.
C'est intéressant. Hein? 1er décembre 2019, tu es obligé, quand tu achètes un cellulaire, d'être fiché comme ça. Saviez-vous qu'en 2019, le centre d'achat à Sainte-Foy a parti un projet de reconnaissance visuelle pour reconnaître votre âge et votre sentiment? C'est-à-dire quand vous achetez, votre comportement d'acheteur, ils ont promis qu'ils effaceraient les données à la fin, qu'ils l'utilisaient juste pour faire des statistiques sur les comportements d'acheteurs. Intéressant. Donc, on a, moi j'ai étudié en reconnaissance faciale, j'ai vu la femme qui est à l'origine, dans le fond au début elle prenait des photos, là, puis ce qu'ils ont fait, c'est que se sont mis des gens là, des universités partout dans le monde à décrire ça, c'est une bouteille. Puis là, ils prenaient les images, puis là, ils éduquaient le programme, parce qu'il faut que tu l'éduques le programme, puis ils éduquent le programme sur tout ce que sont les objets, pour qu'éventuellement, c'est une base de données qu'il y a des millions d'images. Puis c'est aussi des systèmes qui peuvent apprendre tout ça. C'est-à-dire qu'ils vont regarder qu'est-ce qui est une forme semblable. Mon téléphone, moi, depuis que je porte le masque, je ne peux plus l'ouvrir. Là. Il faut que je sois obligé de mettre mon code. Là. Mais d'habitude, c'est mon visage qui rouvre, qui donne toutes les autorisations, tout ça. Quand même, ça veut dire qu'on est rendu quand même au nom d'un bien. Hein? C'est un nom, au nom de « Hey, ça va être le fun, ça va être facile. Il n'y a plus personne qui va me voler mon mot de passe. Tu vas pouvoir savoir si quelqu'un a rentré en proximité de toi puis qu'il y avait le COVID. » On essaye, là, les gens essayent de le passer, mais ça passe pas parce qu'il y a encore une bonne résistance quand même. Donc, c'est technologiquement, on est rendu à un endroit où c'est facile de faire du contrôle de masse. Puis, quand on lit l'Apocalypse, on voit une seule économie que tu ne pourras pas manger si tu n'as pas la marque ou ce genre d'affaires-là. Maintenant, je ne suis pas dans la puce, dans la main. C'est pas là que je suis, OK? Puis, c'est pas là que je veux aller non plus. Par contre, on sait qu'il va y avoir un gouvernement qui est totalitaire, ou un gouvernement qui va contrôler beaucoup les faits et gestes des gens et va traquer les croyants parce qu'ils n'auront pas été identifiés. Mais ça va arriver tard. Les croyants, nous, on va déjà avoir été enlevés, mais il va rester des gens qui vont fuir la persécution durant ce temps-là. Maintenant, que veut dire l'Apocalypse? On va plonger dans le livre. Le mot Apocalypse veut dire dévoilement. Lisons ensemble le chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, le mot veut dire dévoiler, enlever. Il y a beaucoup d'églises qui n'enseignent pas sur l'Apocalypse parce que ça a fait de la chicane, parce qu'il y en a qui l'interprètent littéralement, il y en a d'autres qui l'interprètent de façon figurée. Elle est figurée, là, mais je veux dire, ils partent dans une application figurée quand elle pourrait être littérale. Puis là, ça fait des conflits comme ça, puis les gens disent « Moi, je veux pas de chicane, c'est un livre mystérieux, on va rester avec ce qu'on comprend, puis on va mettre ça de côté. » le mot dévoilement, ça veut dire qu'il va rendre capable de comprendre, tu vas enlever qu'est-ce qui t'empêchait de le comprendre. C'est intéressant parce que Daniel a eu la prophétie des temps de la fin, puis il a prophétisé la grande semaine de tribulation, puis Dieu, après qu'il a eu la révélation, l'ange lui a dit « Scelle ces paroles et ne fais pas lire, ils ne comprendront pas. » Mais il dit « La connaissance va augmenter, donc scelle les paroles de ce livre, ils ne comprendront pas, mais il dit à la fin, les gens vont avoir plus de connaissances, la connaissance va augmenter. » Et pourtant, dans l'Apocalypse, Dieu lui dit, par l'ange, il lui dit, il y a un ange là, qui s'appelle son compagnon de service, qui dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car les temps sont proches. » Scelle pas, mais pas un saut de cire là-dessus. Là. Il faut que ça soit lu. Il faut que ce soit heureux celui qui lit, heureux celui qui entend les paroles de ce livre-là dès le début du chapitre. Donc, c'est disponible présentement pour ceux qui ont des oreilles, pour comprendre celui qui lit et celui qui entend, pour être heureux. Donc, il y a quelque chose là. On va lire à ce sujet-là un peu plus tard. On va lire le verset 2 et 3. Bien, on va recommencer au verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est proche. Intéressant, quand il dit les choses qui doivent arriver bientôt, ce n'est pas les choses qui doivent arriver bientôt. Dans l'original, c'est les choses qui, quand ils vont commencer à arriver, ça va arriver vite. Quand vous partez de Québec et que vous voyez des pancartes pour Montréal, vous en voyez peut-être à toutes les 30 km ou 40 km. Puis là, plus que vous arrivez proche de la destination, plus que là, vous voyez des sorties pour la Rive-Sud, puis tu sais, vous voyez les panneaux qui indiquent plus de sorties pour cette ville-là. Eh bien, quand on va arriver au temps de la fin, les choses vont, quand on va commencer à arriver, vont arriver de façon succincte et rapide. Mais le temps est proche, c'est vraiment, oui, c'est proche, c'est proche de Jean, c'est encore plus proche de nous. Et ce qui m'a frappé lorsque j'ai préparé cette étude-là, c'est de voir toute la hiérarchie, pas la hiérarchie, mais le protocole que Dieu prend pour se rendre jusqu'à l'église de Devilville quand même. Premièrement, c'est écrit que c'est une révélation que le Père a donnée à Jésus. Ensuite, Jésus l'a donné à un ange. Oui, dans le chapitre 1, Jésus parle directement avec Jean, mais après ça, dans l'Apocalypse, vous voyez un ange parler avec Jean, puis elle l'a transporté, puis elle l'a amené à d'autres endroits. Donc, Jésus donne ça à un ange, qu'on ne connaît pas son nom. Il donne ça à Jean. Jean donne ça à un ange, puis l'ange donne ça aux sept. Il y a un ange pour chaque église qui va aller porter ce message-là à chacune des églises. Puis ces églises-là, ben c'est ceux qui ont des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est quelque chose qui devait être lu dans les églises puis être distribué. Donc, ça continue ici, là. Puis, à quelque part, vous faites l'église de Devilville est ici, là. À quelque part, ici. Fait que, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que Dieu pourrait... Jésus, Jean-Sébastien, l'église de Devilville. C'est pas ça que Jésus fait. Le Père aime un processus de révélation. Il aime enseigner. Là. On voit ça. Tout le plan est fait sur une base d'être enseigné puis d'être un disciple, hein, être enseigné, tout ça. Donc, dans 2 Timothée 2:2, j'aime 2:2:2. Ça fait comme photocopie. C'est 2:2:2. Toi, ce que tu as entendu de moi, dans 2 Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs, dis-le à des hommes fidèles qui vont aussi le dire à d'autres. Puis on voit ça, le processus, c'est même Jésus. Et là, j'étais frappé de voir, je me rappelais des paroles dans le Nouveau Testament qui disaient que Jésus ne savait pas quand est-ce qu'il était pour être la fin, juste le Père qui a fixé ça de son autorité. Ou à un moment donné, il disait, le Fils ne reçoit tout du Père, puis ce qu'il voit du Père, puis que le Père lui fait connaître, bien, il le fait connaître à qui il veut bien le faire connaître. Fait que tu vois ce processus où le Père enseigne le Fils, puis le Fils enseigne qui veut bien l'entendre, qui veut être son disciple. Ça, je trouvais ça encore très intéressant. Dans Matthieu 11, 27, il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. » Après ça, je regardais les anges. Je me disais, « Pourquoi le Père, Jésus, les anges? » Et je me suis rappelé que la loi de Moïse a été promulguée par les anges dans Actes 7, 53, dans Colossiens 3, 19. Dans Hébreux 2, la parole a été amenée par des anges. Il y a des événements prophétiques aussi. Les anges, c'est eux qui ont donné les visions de la fin des temps à Daniel avec la 70e semaine de Daniel, qui se trouve être la semaine, la période de 7 ans de tribulation. Zacharie aussi, un prophète du temps de la fin, beaucoup. Marie qui se fait apprendre qu'elle va être enfantée, le Messie, mais c'est l'ange qui va venir le lui apprendre. Un ange, en passant, ça n'a pas d'aile. Puis ça l'a entre 30 et 35 ans en apparence, c'est un jeune homme. C'est rare. Il y a une seule fois, c'est des femmes ailées qui sont appelées. Il y a des femmes ailées, mais ça apparaît juste une fois. Sinon, c'est toujours un homme. Puis dans Hébreux 13:2, tu pourrais recevoir des anges chez toi. Fait que tu es aussi bien d'être hospitalier, parce que ça se peut que ceux qui sont venus te voir, c'était des anges. Fait que ça pourrait. Ils ont l'apparence d'un homme. Donc, Marie n'a pas eu. Quelqu'un qui a rétracté ses ailes pour rentrer dans la maison, là, c'était un jeune homme, tout simplement. Joseph qui se fait avertir de ne pas retourner, d'aller en Égypte parce qu'il va avoir pour protéger le petit Jésus. Bien, dans ce temps-là, le petit Jésus, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, on s'entend. Puis Jean qui, là, dans l'Apocalypse, il se fait parler avec un compagnon de service. Donc, c'est pas rare que les anges sont impliqués pour annoncer des choses prophétiques ou des secrets, là, tu sais. Puis là, juste voir. Fait que Jésus reçoit dans le texte, Jésus reçoit du Père, l'ange reçoit de Jésus, Jean reçoit de l'ange, puis Jean écrit à l'ange. Les commentateurs disent que c'est soit des anges, soit c'est des messagers, là, tout simplement des hommes, parce que le mot veut dire messager. Jean, il est persécuté présentement, puis il est sur l'île de Patmos pour sa foi en Jésus-Christ. Il dit ça, je pense, au verset 9. Il dit qu'il est persécuté, il est sur l'île de Patmos, fait qu'est-ce qu'il avait le droit de visite? Est-ce que c'était possible pour ses amis de venir le voir? Je ne sais pas étudier l'histoire, mais ça pourrait être probable que Jésus lui a demandé d'écrire aux 7 églises, puis qu'ils sont partis 7 en bloc, 7 anges. Ils ont peut-être volé ou s'ils n'ont pas d'ailes, ils ont peut-être été transposés d'une place à l'autre. Puis là, pouf, ils sont partis sur le chemin, puis ils sont allés comme 7 gars ensemble, aller d'une église à l'autre. Mais c'est des messagers. Ça ne dit pas que c'est le pasteur enseignant de l'église, c'est le ministère dans lequel on était avant qui enseignait ça. J'aimerais mieux dire que je ne sais pas. Ça peut être des hommes aussi, puisque le mot c'est messager. Mais quand on regarde la trail, ça a l'air plus des gens qui partaient de Patmos puis qui sont allés faire la tournée des églises. Fait que ça, c'est intéressant. Puis les anges sont allés faire la lecture aux églises ou qui l'ont donnée à l'église. Le but de l'Apocalypse, c'est de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Catasis. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ici, il y a un fait intéressant. Les récipiendaires des... Les récipiendaires des 7 lettres, ils ont reçu pas la lettre. C'est Éphèse, là, quand le messager d'Éphèse est venu, là, il n'a pas reçu juste la lettre d'Éphèse. Il a reçu tout le livre de l'Apocalypse. Puis ça m'a... J'ai compris que il y avait quelque chose qui s'adressait à l'église d'Éphèse. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était à l'église d'Éphèse, mais qui va au-delà de ce qui appartient à l'église d'Éphèse. Mais Smyrne a reçu la lettre d'Éphèse. Ils ont reçu tout le livre de l'Apocalypse. Ils ont reçu tout ce texte-là, tout ce qui était, ce qui est et ce qui doit encore venir après. Tout le texte de Jean a été envoyé aux 7 églises. Ça m'a frappé. Une autre chose qui m'a frappé, c'est la Trinité, mais la manière que la Trinité est décrite. Premièrement, on voit le Père, celui qui était, qui est, qui était et qui vient. Dans ce cas ici, c'est attribué au Père. Plus tard, c'est attribué au Fils, parce que le Fils, le Père puis le Saint-Esprit, les trois peuvent dire qu'ils étaient, qu'ils sont et qu'ils seront. Puis ils sont aussi l'alpha et l'oméga, qui sont les dernières et les premières lettres de l'alphabet, qui démontrent qu'ils sont avant le temps et après le temps, puisque Dieu est Dieu. Les trois peuvent s'attribuer ce titre-là. Mais dans le cas ici, comme dans la plupart des lettres du Nouveau Testament, la Trinité est présentée. Là, ici, c'est de la part de celui qui est et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Donc, il y a le Père. Ensuite, il y a le Saint-Esprit. Mais vous dites, il y a sept esprits. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a sept esprits. C'est intéressant. Jésus, il est l'ange de l'Éternel. Puis, il est aussi un homme qui est venu marcher à Nazareth. Il y a une manifestation de qui il est. Pour Jean, quand il voit ça, il voit sept esprits devant le trône de l'Éternel. Dieu lui montre de voir, il lui donne de voir sept esprits devant l'Éternel. Mais le chiffre sept, il est partout. Sept trompettes, il y a sept caractéristiques du Fils de Dieu, il y a sept caractéristiques du Saint-Esprit, il y a sept églises, il y a sept chandeliers, étoiles. Il y a un dragon à sept têtes. Il y a sept partout. Sept parle de la plénitude ou d'être complet. Hein? Et donc, les sept esprits reflètent sept caractéristiques du Saint-Esprit qui sont nommées ailleurs dans l'Écriture, dans Ésaïe 11:2, qui dit que il est l'Esprit de l'Éternel qui repose sur Christ. Il est l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est sept aspects que quand que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était prophétisé qu'il serait rempli de ces sept caractéristiques-là de l'Esprit. Donc, dans ce livre-là, que le Saint-Esprit soit en train de parler ou il est en train de convaincre quelqu'un qui a les oreilles ouvertes pour écouter, ou bien non, qui est en train d'exécuter les jugements de Dieu sur la terre, il le fait avec sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel. Et c'est ce qu'on voit ici, hein? Un esprit qui reposera sur lui. Donc, c'est intéressant. Ça, ce qui est important pour nous à comprendre, c'est que c'est pas un jugement qui est basé sur un oui-dire. C'est pas, quand quelqu'un va en enfer, puis que Dieu lui explique la peine éternelle de son rejet de Christ, puis la conséquence explicative de chacune de ses tourments, ben, il ne le fait pas sans connaissance, sans sagesse, sans conseil. Il ne le fait pas sur un oui-dire. Puis d'ailleurs, le texte continue, parce qu'après ça, c'est écrit « de la part de Christ ». Puis le premier qualificatif qu'il dit, c'est « le témoin fidèle ». Puis quelqu'un en cours qui témoigne, ben, tu veux un témoin fidèle. Tu ne veux pas juste quelqu'un qui fait à croire que l'autre a fait ça. Non, tu veux des faits, tu veux des preuves. Et Jésus est décrit dans ce chapitre-là comme celui qui a des yeux de feu. C'est celui qui est capable de transpercer les reins, puis est capable de voir et de juger des motivations. Parce que nous, on ne peut pas juger les motivations des gens. Mais Jésus-Christ, lui, dit qu'il va mettre les secrets. Il va mettre en lumière les secrets des cœurs. Hein? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et c'est intéressant parce que Ésaïe, après avoir dit qu'il serait rempli de l'Esprit, avec ses sept caractéristiques, il va dire après, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur un oui-dire. Donc, on a un Jésus qui vient juger le monde, puis il ne le fera pas juste n'importe comment, il va le faire comme un témoin fidèle. Sans trop prendre de notes, parce que c'est pas le but, c'est pas de prendre toutes ces caractéristiques-là, mais dans le chapitre 1, il y a sept caractéristiques aussi pour le Fils. Il est le témoin fidèle, le premier-né des morts, ça parle de sa résurrection. Il y en a beaucoup qui sont ressuscités avant lui, mais ils sont tous morts. Lui est ressuscité dans un corps de gloire. Il est le premier à être ressuscité dans un corps de gloire. Il est le prince des rois de la terre. On devrait plutôt lire le dirigeant des rois de la terre. Il est l'alpha, celui qui est avant toute chose. Il est l'oméga, celui qui subsiste après toute chose. C'est le maître de l'histoire. Il est le Seigneur Dieu. Il est le Tout-Puissant. Sept caractéristiques du Saint-Esprit, sept caractéristiques du Fils. On voit ça revenir. Là, il dit de la part du Père, de la part du Fils, puis du Saint-Esprit, puis d'habitude, ils disent toujours Père, Fils, Saint-Esprit. Là, il dit Père, Saint-Esprit, Fils. Puis là, après qu'il ait parlé du Fils, tu sais, il dit, c'est écrit aux sept églises, de la part du Père, du Saint-Esprit et du Fils. Là, il part en louange. Regardez la coupure, la louange qu'il va faire. Il va dire, celui qui est le premier des princes des rois de la terre. Puis là, il va dire, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ils viennent de faire une introduction. Voici la lettre. Elle vient de qui? Elle est adressée à qui? Puis quand il dit qu'elle vient du Fils, il part puis il commence à louer le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a délivrés. Et c'est important parce que ce n'est pas un livre chaleureux. C'est un livre où les nations vont se lamenter, les gens vont dire « Dieu est en colère contre nous ». Fait que c'est un livre qui est terrifiant, le livre de l'Apocalypse. Et même pour l'Église, on passe tout au cache un petit peu dans les lettres où ce qu'il nous dit hey, « attention, là, tu fakes un peu, là, ici, tu fakes pas un peu, tu fakes. Puis moi, je veux que tu sois un vrai. » Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le chapitre 2 s'est passé avant le chapitre 1. Pas le chapitre 2, les versets plus tard se sont passés. Il y a un événement traumatisant qui est arrivé, qui l'a effrayé complètement. Et on va le lire ensemble, cet événement traumatisant-là. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en me disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après elles. Mais qu'est-ce qu'il a vu pour pouvoir être si terrifié? Le texte ne dit pas qu'il est tombé comme mort. Dans l'original, c'est « je suis devenu mort ». Fait que Jean, il est peut-être mort physiquement. Puis tout de suite après, il dit « hey, je suis ressuscité en passant ». Puis il l'a touché, puis il s'est relevé. Peut-être qu'il est mort, puis qu'il a été ramené à la vie par Jésus, on ne le sait pas. Mais il dit « j'étais comme mort ». Puis qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu un Dieu saint. Écoute, Jean, là, il ne faut pas oublier que c'est un disciple. Il est allé de village en village avec Jésus là, pour évangéliser, dire que le royaume s'en venait. Mais là, le roi débarque. Puis la manière qu'il est habillé, il y a une robe qui parle probablement de son office actuel, qui est d'être un souverain sacrificateur. Mais il y a une ceinture en or. Puis la ceinture en or qui passe sur la poitrine, c'est une ceinture pour relier l'armure ensemble. L'armure d'un soldat. C'est un élément important de l'armure. Et ça ressemble à une posture de guerre. Les cheveux de Jésus sont déclarés comme ayant des cheveux blancs, comme une blancheur étonnante. Daniel a eu la même vision. Il dit, regardez, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Et là, Daniel, il dit, ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure. La pureté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, quelqu'un disait sur Facebook ce matin, est-ce que Jésus a péché, tu sais, en faisant une œuvre le jour du sabbat, tout ça, tu sais. Non, Jésus n'a pas péché, Jésus est sans péché. Jésus est innocent et c'est ce qui lui donne le droit de vous juger, de me juger, de juger le monde en entier. Donc, la pureté de Christ. Puis la sagesse aussi, dans les proverbes, c'est écrit qu'une tête blanche, c'est une tête de sagesse. Je vais juste fermer mon petit... Les yeux de Jésus sont décrits comme ayant une flamme de feu. Alors, on ne lira pas tous ces passages-là, mais c'est dans le chapitre 1. Dans Jérémie, au chapitre 17, verset 10, il dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Hébreux 4, 13 dit qu'il n'y a aucune créature qui est cachée devant lui, tout est à nu, tout est à découvert aux yeux de qui on doit rendre des comptes. Dans Psaume 11, 4, « L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils des hommes. » Habacuc 3, 6, il s'arrête et le soleil est de l'œil, il mesure la terre, il regarde et fait trembler les nations. Juste d'être devant lui et de voir le feu dans ses yeux, tu as le goût de mourir. Il y a des pieds comme de l'airain ardent. L'airain, quand il est utilisé dans la Bible, c'est toujours un symbole de jugement. Même les serpents d'airain qui ont été mis, c'était un jugement qui était pris à ta place. Ça préfigurait Christ qui serait jugé à ta place. L'airain, Zacharie annonce que le Messie va descendre sur le mont des Oliviers et qu'il va toucher à la terre dans Zacharie 14, 3 à 4. Ce n'est pas l'enlèvement, parce que l'enlèvement, Jésus vient dans les cieux, puis nous allons le rejoindre dans les cieux. Mais après ça, il revient puis il touche à la terre. L'Éternel paraîtra, il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, de l'Orient à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, blablabla. Donc, les pieds de Jésus sont comme de l'airain. Fait que, tu sais, Jean, il voit ça. Puis il dit, j'ai entendu sa voix, puis il dit, c'était la voix comme la voix de grandes eaux. Quand les eaux sont utilisées de façon symbolique, c'est toujours une armée qui est en train de débarquer. C'est un peuple armé. Et il dit, j'entendis, c'est sa voix comme de grandes eaux. Daniel, dans sa vision, il dit, il parle encore de lui comme étant, ses yeux étaient comme des flammes, ses bras, ça si vous voulez, c'est Daniel 10, 6. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc Daniel, il dit, quand j'ai vu la vision et les hommes qui étaient avec moi, ils la voyaient pas, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et parirent la fuite pour se cacher. Ils l'ont pas vu, mais ils l'ont probablement entendu. Je sais pas si, tu sais, comme moi, mes furets, là, on fait un bruit, là, ils font. C'est comme, y a-tu un prédateur qui vient d'arriver, là, tu lâches un bon pet, là, tu sais, puis il paraît qu'hier, ils ont fait. Donc, tu sais, quand t'entends un bruit, là, tu sais, ceux qui étaient au Liban, là, ça fait pow! Mais là, c'est pas un. Pow! C'est quelque chose qui s'en vient, ça s'en vient en grandissant, comme des grandes eaux. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, dit Daniel. Mon visage changea de couleur et je fus décomposé. Je perdis toute ma vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre et voici une main me toucha, secoua mes genoux et mes mains. C'est comme, lève-toi, t'es pas mort. Donc, c'est Jésus dans la grande tribulation. Ça, c'est la vision de Jésus qui s'en vient dans la grande tribulation que Daniel a vue. Dans la main droite de Jésus, droite parle de faveur. Il tient les sept étoiles. Les sept étoiles, il donne l'explication, ce sont les messagers qui vont être envoyés à chacune des sept églises. Mais s'il n'y a pas juste sept églises, il n'y a peut-être pas juste sept messagers aussi. C'est-à-dire qu'il y en aura plus dans la suite des temps, mais là, il parle des sept étoiles puis il dit « sont dans sa main ». Droite. Dans Deutéronome 33, 3, dit, Dieu aime son peuple. Tous les saints sont dans sa main. Ils se sont tenus à ses pieds. Ils ont reçu ses paroles. Qu'est-ce que Dieu fait? Ils m'ont servi. Je les tiens dans ma main. Je les tiens dans ma main dans cette période-là qui s'en vient. Je les garde près de moi. Ça, c'est intéressant, mais ça parle des messagers. Donc, protection, bénédiction, ça a l'air d'une place de faveur pour ces messagers-là qui étaient envoyés aux églises. Sa bouche. Il y a deux mots pour épée. Il y a les petites épées courtes pour séparer des choses. Puis il y a des lances. Bien, le mot qui est utilisé ici, c'est la lance. Donc, il y avait une langue qui était longue comme une lance. Puis Jean il dit que c'est toujours associé ça, à cette lance-là, à un jugement dans la Bible. Et on voit dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, 8, que l'Antéchrist va être tué par le souffle de sa bouche. Ça dit aussi que ceux qui auront pris plaisir à l'injustice se seront condamnés, 4 versets plus loin, dans 2 Thessaloniciens 2, 12. Son visage est comme le soleil. Waouh, le soleil! C'est-tu le fun, le soleil? On peut se faire griller. Oui, mais tu ne veux pas finir sur le barbecue. Le soleil est source de joie pour ceux qui sont croyants et source de rôtisserie pour ceux qui rejettent le Messie. Regardez, c'est écrit... Saul, par exemple, est devenu aveuglé par la lumière quand il a rencontré le Messie. Jésus, puis il dit son visage était comme le soleil quand il était sur le mont de la Transfiguration. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour Jean. C'est deux fois qu'il le voit. Pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, le visage de Jésus va réjouir leur cœur, mais pour les autres, on va le lire dans Malachie 4, 1 à 2. Voici vient le jour ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants sont comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux dans une étable. Yeah! Comme quand on arrive au printemps, on est content de sortir. On va être là. Hey, Seigneur, ton visage, au lever, je verrai ton visage. Hein, dans les psaumes, c'est écrit. Hein, je vais contempler ton visage, le soleil qui me réjouit, ta présence. Mais, pour celui qui n'aura pas voulu et qui sera rebellé à Christ, qui n'aura pas voulu l'accepter, qui va l'avoir rejeté, c'est une fournaise, un jour de fournaise ardente. Jésus parle de l'enfer régulièrement, surtout dans le livre de Matthieu, puis il va parler d'une place où c'est un feu qui ne s'éteint pas, une fournaise. Fait que tu comprends-tu pourquoi que Jean il est devenu mort? Il était devenu mort, il était frappé par la sainteté de ce Dieu-là, Jésus-Christ, qu'il n'avait pas vu quand il était dans sa chair. Puis là, j'arrive à la fin. Jean, il présente le Père, il présente le Saint-Esprit, puis là, il présente le Fils, puis là, il l'adore. Il l'adore, puis il dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous, il nous a délivrés de nos péchés, puis c'est écrit que Jésus a mis la main sur son épaule. Probablement c'était sa main gauche, parce qu'il y avait les étoiles dans la main droite. Je ne sais pas s'il les avait toujours dans l'image, mais en tout cas, il a mis sa main sur... Tu sais, comme Daniel s'est fait secouer les genoux, puis les mains, là. Ben Jean, Jésus a mis sa main sur lui, puis il dit, faites aux empoches, tiens la clé du séjour des morts. Puis ça veut dire qu'il peut faire entrer qui il veut dedans, mais il peut aussi en faire sortir qui il veut aussi. Puis il se trouve que nous, il nous a sortis du séjour des morts. Il nous a sortis d'une peine éternelle, puis nous, on n'ira pas en jugement, puis on ne verra pas cette période-là. Fait que écoutez, il dit ça, garde, puis il y a... En passant, l'Apocalypse, c'est un livre pour le royaume et les royaumes. Le royaume, chapitre 1, 2, 3, 21, 22. Bon, on va dans les cieux avec lui, là. Excusez. 1, 2, 3, 21, 22. Et c'est aussi un livre pour les royaumes, chapitre 4 jusqu'à 19. Hein? Et regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Suite après avoir dit là, Jésus, il nous a sauvés, il nous a aimés, il a fait de nous un royaume. Regardez qu'est-ce qu'il dit tout de suite après, puis il va dire amen à ça aussi. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen, ça ne veut pas dire yes, ça veut dire je suis d'accord. C'est comme, c'est correct. Tu as les cheveux blancs, tu es sage, tu as un esprit de sagesse. Le conseil, tu sais ce que tu fais. Amen, je suis d'accord. Ouf! C'est pour ça que quand l'Apocalypse commence, il dit « Grâce et paix à ceux qui sont dans les églises en Asie ». Pourquoi « Grâce et paix » Parce qu'il nous a aimés, puis on a accepté ce qui a été fait pour nous, puis on ne passera pas par le jugement. Mais là, c'est quand même une lecture difficile, parce que c'est le maître de l'histoire, celui qui était avant l'histoire, qui est après l'histoire, qui dit là, on va changer un chapitre. L'histoire de l'Église est en train d'avancer. Il y a eu Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, ça avance. On est rendu à Laodicée, la dernière Église. Le maître de l'histoire va tranquillement et bientôt, de façon rapide plutôt, changer de page et les choses vont arriver de façon rapide. Il a donné des signes à Jean. Puis on est dans la dernière église, on est à la ligne d'arrivée. On est en train de courir, puis là on dit, crème, il n'en reste pas tant long. Ça vaut la peine, c'est le temps d'être pour Dieu dans un monde qui est contre Dieu. C'est le temps d'avoir un bon focus, de se laisser sonder, parce que ces yeux de feu-là, Jésus, il n'est pas contre nous, mais il voit le mal, puis il veut le traiter aussi en tant que bon père. Fait que c'est le temps de relever la tête puis donner un petit coup encore, comme cet après-midi, ceux qui peuvent. On va donner un petit coup de main encore à Julie puis Sébastien pour donner un petit coup. Puis on sait qu'il n'en reste pas gros, puis on est encouragés. Puis eux autres aussi sont encouragés parce qu'on est dans leur nouvelle demeure. Bien, c'est la même chose pour nous autres. C'est drôle parce qu'hier, la petite Ariel a dit, « Si je comprends bien, on s'en va chercher mon lit, là. Hein? » Hey, j'ai dit, Caroline, j'ai dit, il y a des adultes qui disent même pas ça, tu sais, de l'écoute active, tu sais, si je comprends. J'y avais dit, là, la prochaine chose qu'on embarque, c'est ton lit, parce qu'elle avait juste hâte de coucher dans sa nouvelle maison. Hein. Mais on a hâte de coucher dans notre nouvelle maison. On a hâte d'arriver, puis de, que tout ça soit en arrière de nous, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés des péchés. Ça devrait être un temps pour apprécier le salut qu'on a en Jésus-Christ, puis de réaliser que crime, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. On n'a peut-être pas vu Jésus dans toute cette terrifiante vision-là. Mais Jean en parle, puis ouf, ça n'a pas l'air d'être un cadeau, cette histoire-là. De dire qu'on n'aura pas le visage ardent de la colère de Dieu contre le péché, mais on va avoir le soleil qui va nous réconforter. Donc, c'est de réaliser qu'on a un grand salut, qu'on ne devrait pas le prendre pour acquis, puis qu'on devrait lire les Écritures, puis prendre notre responsabilité aussi de quoi? De continuer la chaîne. Dieu, Jésus, un ange, Jean, un ange, l'Église. Puis là, les gens, ils venaient. Puis tu sais, dans ce temps-là, quand que Paul il dit à Timothée, « Applique-toi à la lecture jusqu'à ce que je revienne. » Le mot « lecture », c'est la lecture publique. Dans ce temps-là, ben les gens n'avaient pas une copie de la Bible. Donc, on allait s'asseoir dans ces églises-là, puis on se faisait lire la Bible. C'est pour ça que c'était des lettres circulaires aussi. Fait que, on devrait certainement prendre le temps de lire l'Apocalypse, puis aussi lire le reste de la Bible, puis de réaliser que, faut pas prendre ça pour acquis, là. Le grand salut que Dieu nous a offert. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. J'aimerais ça, vu qu'on est sous enregistrement, si vous avez écouté cet enseignement-là sur les lettres aux sept églises, puis l'Apocalypse, la Bible a dit que Jésus-Christ vous aime tellement qu'il est venu mourir sur la terre pour vous. Il est venu vivre sur la terre d'abord. Il a vécu une vie sans péché. Il est mort sur la croix, il a été puni pour vos péchés. Et il a fait cela afin de vous donner la vie éternelle. Le jugement qui est décrit dans l'Apocalypse, ce n'est pas un jugement pour les croyants, c'est un jugement pour ceux qui ont refusé. À un moment donné, l'histoire, il faut qu'elle arrive à la fin, puis c'est là qu'elle va arriver à la fin. Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux, il va avoir de la justice, il va avoir la paix, voir la présence de Dieu, et Satan et ses démons ne seront plus là pour tenter et éprouver le monde. Mais la Bible a dit qu'il faut que toi-même, tu acceptes le Sauveur Jésus-Christ pour pouvoir recevoir la vie éternelle. On a tous péché et on a offensé Dieu, mais à cause de sa mort sur la croix, Dieu compte comme une justice que Jésus-Christ a payé votre dette. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accepter qu'il ait payé votre dette. Et vous demandez à Dieu de vous accepter à cause du mérite de son Fils, à cause de sa vie parfaite, puis à cause du paiement qu'il a fait pour vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est de croire, pas rien d'autre. Après, faire des choses, c'est parce qu'on veut aimer Dieu, on veut l'honorer, mais pas pour être sauvé, parce que c'est Jésus qui a fait cette œuvre-là. Si vous voulez recevoir ce cadeau-là, priez avec moi, et on va faire cette prière à voix haute, on va vous accompagner là-dedans. Seigneur Jésus, je reconnais que tu m'aimes et que tu as payé la dette de mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur. Viens dans ma vie et sauve-moi. Merci d'avoir abandonné la gloire. Merci d'avoir abandonné la gloire pour venir me sauver. Et pour tous ceux qui sont croyants, je prie ce matin que vous preniez un souffle nouveau, que votre espérance soit ce qui vous inspire de continuer, que vous savez que vous ne serez pas jugé comme le reste du monde, vous remplisse d'un grand respect pour l'œuvre de Christ, mais aussi d'une grande responsabilité. Vous connaissez quelque chose que les gens ne savent pas nécessairement. Que Dieu vous conduise dans ça. Amen.